Tac, version coup de poing, bâtard. Une insulte franco-américaine, bastard. Une anomalie d'état civil pendant longtemps. Pas de père, pas de reconnaissance. Rayé de la succession, enfant naturel sans existence. Espèce 2, ça change de fils 2. Et toujours le début d'une histoire. Dire le mot, le faire entendre et l'écrire. Éloge des bâtards est le nouveau roman d'Olivia Rosenthal qui est familière des titres un peu énigmatiques ou provocateurs. Par exemple, que font les reines après Noël? Ou encore, toutes les femmes sont des aliens. Bonjour Olivia Rosenthal.
Bonjour.
Bâtard, ce n'est pas le mot le plus agréable ou le plus confortable de la langue française.
Non, mais c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce qu'en fait, moi, c'est un mot que j'aime beaucoup et que j'ai eu envie de réhabiliter non seulement le mot, mais j'ai envie de dire la chose, c'est-à-dire ceux qui portent, qui peuvent peut-être porter ce mot ou qu'on désigne comme tel.
Le mot est arrivé très vite dans l'écriture du roman. Est-ce qu'on peut écrire un roman pour un mot?
Je crois que là, celui-là, je l'ai vraiment écrit avec à l'esprit cette idée de réhabiliter en fait les bâtards ou de leur donner une place qu'ils n'ont pas forcément. Donc c'était l'objet du livre et le mot était véritablement le point de départ et je dirais même le titre qui est resté parce qu'il y a eu beaucoup de discussions autour du titre. On a essayé d'autres titres, mais finalement celui-là est programmatique et en même temps il dit exactement ce qui est en jeu dans le livre.
Oui, réhabiliter ou faire l'éloge, c'est pas exactement la même chose.
Non, mais pour faire l'éloge, il faut aussi réhabiliter un peu. Donc ça passe d'abord par un moment de considération, au sens de, on considère l'existence de ceux qu'on nomme les bâtards, c'est quoi bâtard, et ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et après, cette considération-là, le fait de reconnaître l'existence de ces bâtards, c'est le chemin vers leur éloge.
Alors pourquoi faire l'éloge des bâtards Olivia Rosenthal, sachant que le roman, on va le raconter davantage et plus en détail, mais que pour aller vite, le roman raconte l'histoire de 9 personnages qui constituent un groupe d'activistes qui pratiquent la désobéissance civile.
C'est exactement ça, oui. Donc ces personnages ne savent pas au départ qu'ils sont des bâtards les uns les autres. Donc tout le roman va être comme la découverte progressive par les uns et les autres du fait que finalement ils ont quelque chose qui les réunit. C'est pas seulement leur activité politique, c'est aussi leur histoire familiale. Et donc il faut tout le livre en quelque sorte pour qu'ils accèdent à cette autre connaissance d'eux-mêmes.
Et les bâtards va être le nom du groupe qui arrive assez tard dans le roman.
Oui, en fait, ils ont pas de nom, mais l'un des personnages du groupe, qui est Lily, qui est un personnage un peu particulier, puisque justement, ce personnage n'est pas un bâtard, a un objectif, c'est de donner un nom au groupe. Puisque, en fait, peut-être qu'un collectif sans nom n'est pas aussi actif, n'est pas aussi puissant qu'un collectif avec un nom.
Et eux-mêmes hésitent, et Lily hésite aussi à proposer ce nom de bâtard, parce qu'on voit bien quand même la charge très négative, très très péjorative, c'est une insulte absolue, bâtard.
C'est vrai. Donc c'est aussi c'est ça qui l'a fait hésiter. En même temps, dans son esprit à elle, d'ailleurs comme dans le mien, l'idée c'est bien de dire que ce mot-là n'est pas forcément un mot négatif, de raconter quelque chose sur la qualité qu'il faut avoir pour vivre quand on est un bâtard, sur les qualités. Et donc elle hésite, il faut qu'elle explique en fait pourquoi elle va faire ce choix du nom.
Alors ce sont quoi les qualités pour vivre le fait d'être un bâtard, Olivia Rosenthal? Page 315, vous dites, nous les bâtards, on est indestructibles. Bon, ça déjà, donne une force.
Déjà les bâtards sont indestructibles, enfin pas tout à fait, mais en tout cas ils sont obligés de se fabriquer eux-mêmes, donc il faut qu'ils fabriquent leur propre fondation, et une fois qu'ils les ont fabriquées, donc ils ont un peu plus de force que les autres. Peut-être aussi qu'ils savent un peu mieux s'adapter au monde dans lequel ils vivent, parce qu'ils ont été obligés de s'adapter depuis le début, puisque finalement, leur naissance n'est pas la naissance de tout le monde. Donc, ils sont un peu différents, et donc ils doivent s'adapter aux circonstances du monde où ils ne sont pas les bienvenus. Donc il faut qu'ils trouvent des moyens, des ruses pour s'intégrer malgré tout. Donc c'est en général, ils sont aussi peut-être un peu plus malicieux, mais au bon sens du terme. Ils ont de l'intelligence au sens de la, au sens presque grec de la métisse, quoi. Ils savent. Oui, ils savent utiliser le monde dans lequel ils sont pour s'intégrer à l'intérieur.
Et finalement, ça peut donner de la liberté.
C'est ce que raconte le livre, en tout cas. C'est une forme de liberté à l'égard de sa propre histoire, de sa généalogie, des racines, qui sont des éléments à la fois qui nous fondent, mais en même temps qui peuvent peut-être nous contraindre.
Éloge des bâtards est donc le titre de votre roman, Olivier Rosenthal. Éloge des bâtards, d'autres sont encore plus directs, d'autres artistes. Stromae.
Je suis, j'étais et resterai, moi, ni l'un ni l'autre. Je suis, j'étais et resterai, moi, ni l'un ni l'autre. Je suis, j'étais et resterai, moi, ni l'un ni l'autre. Je suis, j'étais et resterai.
T'es de droite ou t'es de gauche? T'es beauf ou bobo de Paris? Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. T'es un homme ou bien tu péris? Cultrice ou pathéticienne? Féministe ou la ferme, soit t'es macho, soit homo, mais t'es phobe ou sexuel, mécréant ou terroriste, t'es veuche ou bien t'es barbu, conspirationniste, illuminati, mythomaniste ou vendu, rien du tout, ou tout tout de suite, du tout au tout, indécis, hein, tu changes d'avis, imbécile, mais t'es où tout tout de suite, flamand ou wallon, bras ballant ou bras long, finalement t'es raciste, mais t'es blanc ou bien t'es marron, hein?
Le bâtard tu es, tu l'étais, tu le restes.
Monsieur ne prend pas parti. Monsieur n'est même pas raciste, vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs, monsieur a un ami noir, et même un ami arien. Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs, tout ça, bah, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nombril du monde. Monsieur, c'est la bête plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme, hein. Faut être doux, faut être calme, hein. Faut être dans le coup, faut être branchouille. Pour être bien vu partout, hein. Le bâtard tu es, tu l'étais, tu le restes.
Sur RFI, Le bâtard de Stromae et le nouveau roman d'Olivier Rosenthal, Éloge des bâtards. Faut-il avoir des racines, Olivier Rosenthal? Grande question.
Je ne sais pas s'il faut avoir des racines, mais soit on en a, soit on n'en a pas. C'est plutôt ça. Donc,
peut-on vivre sans racines alors?
Oui, peut-être plutôt comme ça. Alors. Ben, en tout cas, le livre dit que oui, c'est pas toujours facile, mais c'est bien ce qui est en jeu là. C'est-à-dire comment on transforme quelque chose qui est un peu vertical, de généalogique, etc., en quelque chose d'un peu plus horizontal. Sachant que si j'ai une théorie, j'en ai pas 36, mais j'en ai une petite là à diffuser tout de suite.
Allez-y.
Qui est de dire que au fond, la généalogie, c'est une fiction comme une autre, qu'on peut en inventer d'autres. Parce que les arbres généalogiques, c'est de pure fiction qu'on se raconte à nous-mêmes pour fabriquer de la fondation. Donc, après tout, on pourrait inventer d'autres manières de se fonder, qui seraient, par exemple, des fondations collectives, horizontales. C'est une proposition, disons.
Alors, ils sont 9 dans votre roman, et ils se déroulent en 5 nuits. C'est un peu comme l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. Je précise cela pas tant pour faire le savant, mais parce que vous avez fait une thèse sur la poésie amoureuse au XVIe siècle, donc j'imagine que vous y avez forcément pensé.
Oui, j'ai pensé à ce texte de Marguerite de Navarre, sauf que Marguerite de Navarre, elle met en scène des aristocrates, c'est vrai que c'est des gens qui se mettent à parler et à se raconter des histoires dans un moment où y a une rivière qui déborde, il y a quand même comme un moment de déluge, donc un moment difficile, et là ils se retrouvent exilés et ils se mettent à parler les uns avec les autres.
C'est un peu comme dans l'Éloge des bâtards.
Voilà, donc il y a bien ce modèle-là, c'est-à-dire un modèle dans lequel il y a une menace, il y a une tension, et il faut trouver une solution par rapport à ça. Donc les bâtards, la solution qu'ils trouvent, c'est d'une part d'agir dans la ville, donc ça c'est ce que raconte le livre en filigrane, mais aussi de se réunir la nuit, et au lieu de parler des actions qu'ils vont devoir mener, ils se mettent à parler de leurs histoires respectives. Et effectivement, comme dans l'Heptaméron, c'est un livre qui est une espèce de recueil d'histoires.
Et le premier à prendre la parole est Fox, qui ne verra son père que 3 fois dans sa vie. mais dont il n'a le souvenir que d'une seule fois, quand il est adolescent, dans la chambre 22 d'un hôtel lyonnais. Donc lui, c'est un... Alors, j'ai du mal à dire le mot bâtard, toujours. Donc voilà, le premier personnage
ça
n'a pas de père.
Ça veut dire que vous n'avez pas encore bien intégré le livre comme un... J'espère y arriver un jour, que finalement, je me dis, un livre comme ça peut peut-être changer, bon, c'est un petit peu utopique, mais changer justement non seulement le regard qu'on peut avoir sur les bâtards, mais même la qualité qu'on assigne à ce mot.
Il y a Macha aussi.
Oui.
Alors, est-ce qu'elle est bâtarde? Pas
ben,
totalement.
Elle a passé beaucoup de temps de son enfance à la DAS, mais comme elle le dit et elle insiste beaucoup là-dessus, elle a une mère, donc elle a connu sa mère. Et est-ce que c'est suffisant pour constituer une histoire familiale? Je sais pas, mais en tout cas, elle insiste beaucoup sur l'existence de sa mère, la présence de sa mère, qu'elle a vue quelques fois dans sa vie.
Et en même temps, elle ne sait pas si elle est arabe ou non. Parce qu'elle s'invente une histoire, pour le coup. Elle s'invente une généalogie.
Elle sait même pas si elle est... Nous-mêmes, on sait pas si elle est arabe, noire ou... Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, elle se raconte une histoire de père noir américain qui serait une sorte de héros de l'armée américaine, mais elle en a aucune trace. Et en fait, ce qui est assez étrange, c'est que non seulement elle en a pas de trace, mais qu'elle en cherche pas vraiment. Donc elle a besoin de se raconter cette histoire sans essayer de la prouver.
Mais alors, vous dites, nous-mêmes, on ne sait pas si elle est arabe ou noire. Nous-mêmes, c'est qui? Le lecteur ou l'auteur?
Nous-mêmes, c'est le lecteur. Non, c'est le lecteur. Le lecteur, en fait, il écoute ses histoires. Et je sais pas où il met la vérité de chacune de ses histoires. Enfin, c'est-à-dire que, à un moment, elle dit des choses sur elle-même. Et on sait pas très bien ce qu'elle veut dire. Est-ce qu'elle veut dire qu'effectivement, qu'elle est arabe, qu'elle est... Enfin, on sait pas très bien. Et donc, ça reste, il y a quelque chose d'indécis, d'imprécis dans son identité. Et c'est ce qui fait, pour moi en tout cas, alors là comme auteur, c'est ce qui fait aussi la force de ce personnage.
Il y a Sturm aussi, ouais. Tout ça sont des pseudos, hein. Ouais. Ils se nomment pas avec leur vrai prénom, ils s'inventent eux-mêmes une identité. Alors lui, il a un père et un beau-père, mais c'est un peu pour son malheur, parce ouais. qu'il est pas du tout bâtard, mais il a été victime de violence de la part de son beau-père. Est-ce que c'est équivalent?
Après, lui, il connaît son père, mais il le connaît tardivement. C'est-à-dire qu'il découvre son père quand il a une dizaine d'années et il le connaissait pas avant. Donc, il y a une redécouverte de la filiation. J'ai envie de dire que tous les cas sont particuliers. Il n'y a pas un modèle. Ils sont particuliers à la fois dans le rapport avec le mot bâtard, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous la même histoire par rapport à ça.
Certains disent « je ne suis pas bâtard ».
Voilà. Et puis, c'est particulier aussi dans le choix qu'ils font par rapport à leurs origines. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont plutôt chercher quelque chose, il y en a qui ne vont pas chercher. Et j'ai envie de dire que oui, un livre comme un livre de fiction, un roman, il n'est pas là pour proposer un modèle, en fait. Il est aussi là pour raconter quelque chose de la diversité des expériences que vivent ces personnages et de leurs relations très singulière à leur, entre guillemets, bâtardise.
Alors, dans une formule devenue célèbre, André Gide écrivait « Famille, je vous hais ». Vous, c'est « Exit les familles ».
Ah oui, je dis. C'est une des actions, non, qu'ils font dans la ville. Il me semble, à un moment, ils travaillent à mettre ça sur les portes de sortie des lieux publics.
C'est un programme en soi.
Oui, c'est un programme. Bon, évidemment, il y a aussi un peu d'amusement. Il y a quelque chose comme une jubilation à aller un peu contre les idées reçues. Je peux pas nier ça. Et donc même le titre est là pour ça, et Exit les familles, c'est aussi une manière de dire, bah attendez, est-ce que la famille est le seul modèle dont on dispose? Est-ce qu'il y en a pas d'autres? Lesquels on pourrait proposer qui seraient des modèles alternatifs?
Oliver Rosenthal, je vous propose de lire un court extrait de votre roman, et je sais que vous aimez cela car vous faites souvent des performances avec des musiciens.
J'aurais envie de défendre l'idée que l'indifférence à l'égard de nos ascendants offre une sacrée liberté, qu'on n'a pas intérêt à triturer le passé, que ressasser les états révolus de notre enfance ne sert à rien. Mais peut-être que l'absence initiale d'amour est un puits sans fond, une source inépuisable de doutes et de questions. Alors, même si aucun d'entre nous n'est préparé à entrer dans la vie de Macha, et encore moins par les épisodes maternels, même si on préférerait plutôt discuter des dessins qu'elle installe sur les murs et les palissades, lui reprocher ses actions non concertées et voir comment améliorer nos performances clandestines, personne ne la recadre. Sa rage intacte nous est précieuse. Elle nourrit notre indignation. Bref, j'ai compris que je pouvais pas faire naître un enfant qui aurait pas de père. Et je sais de quoi je parle, a dit Macha. Toi aussi ? la voix de Fox tremble. C'est pas le règne du désordre, dit Sturm, en s'adressant directement à Fox. C'est le règne des bâtards. Et il lui envoie une grande tape dans le dos, entre la caresse et le coup. Fox encaisse. Je suis pas un bâtard. Et je pouvais pas savoir pour Macha. Je crois bien qu'aucun des membres du groupe n'aurait le courage de se définir comme bâtard. Aucun n'aurait la force de revendiquer cette appellation. Aucun ne voudrait se l'appliquer avec la joie de celui dont la stigmatisation décuple la force. Non, aucun. Mais moi, je pense à ce mot, bâtard, je le rumine et il m'inspire. Le groupe que nous formons est en train de prendre une épaisseur insoupçonnée.
Extrait d'Éloge des bâtards 2, et j'ai envie de dire avec Olivia Rosenthal, car je retrouve votre trace ou votre présence dans plusieurs personnages du roman, et bien évidemment dans celui de la narratrice Lily, qui a un don particulier. Elle fait de la télépathie. Quand elle rencontre quelqu'un, elle sait immédiatement son histoire, elle entend sa voix, elle est traversée par les voix.
Oui, c'est ça. Donc c'est une sorte de double d'un écrivain, enfin d'un écrivain que je pourrais être. Puisque,
pourquoi
par exemple,
que je pourrais être,
enfin que je suis, mais que je, voilà, que je pourrais être au sens où c'est quand même de la fiction, donc elle est pas exactement adhérente à moi non plus. Mais c'est vrai que pour écrire ce livre, comme pour écrire d'autres livres, je commence par faire des entretiens en fait avec des gens que je rencontre pour, par exemple là, j'ai rencontré des bâtards à qui j'ai demandé de me raconter leur histoire de bâtard. Donc et ces entretiens, pour les mener, il faut être capable de à la fois de s'approcher de l'autre, mais en même temps d'être à une distance suffisante pour lui laisser de la place. Et ça, c'est une sorte d'aventure. C'est-à-dire que la télépathie, c'est une qualité, mais c'est beaucoup un défaut. Parce que quand on est télépathe, on entre dans la tête de l'autre et donc on parle à sa place. Donc il y a toute cette dimension-là qui était importante à la fois pour moi en tant qu'écrivaine, mais dans le livre, c'est aussi un motif très important de savoir ce qu'elle va faire de ce pouvoir qu'elle a.
Oui, elle dit qu'elle se sent siphonnée par la biographie des personnages rencontrés, et il y a forcément un double sens à siphonner. Il y a l'idée d'être aspirée et puis de devenir un peu dingue.
C'est ça.
Donc c'est le risque.
C'est un peu le risque. Et donc, elle est obligée de travailler avec ce pouvoir-là et de le juguler aussi. Enfin, je dis souvent que c'est un petit peu comme dans les films ou dans les bandes dessinées où on voit des super-héros. C'est-à-dire que oui, ils ont des super-pouvoirs, mais ce qui nous plaît dans les super-héros, c'est qu'ils ont toujours un endroit. Enfin, moi, en tout cas, ce qui me plaît, c'est qu'ils ont aussi toujours une faiblesse. Et donc c'est là qu'ils deviennent intéressants.
Alors c'est vrai, Olivia Rosenthal, que dans vos précédents romans, vous avez fait entendre des voix, vous êtes allé chercher des récits, des témoignages. Je pense au livre sur la maladie d'Alzheimer, On n'est pas là pour disparaître, où vous aviez fait entendre des récits de médecins et de familles. Mais c'était très clair dans le livre, c'est-à-dire tout d'un coup, un médecin parlait à l'intérieur du récit. Alors qu'ici, Les personnages sont davantage des personnages, leurs paroles ne semblent éventuellement pas empruntées à une autre personne qui serait celle que vous avez rencontrée.
Oui, j'ai voulu, là, même si je fais des entretiens à chaque fois, l'objectif c'est de trouver une manière de faire entendre des voix qui soient peut-être à chaque fois un peu différentes. Et donc là, je voulais vraiment travailler sur d'abord sur quelque chose qui était un peu plus romanesque, me semble-t-il, avec les moyens du bord, mais enfin c'est quand même ça l'idée, d'inventer un monde en fait, d'inventer donc des personnages aussi qui auraient des noms. Ça c'est aussi quelque chose qui était assez nouveau dans mon travail, et de leur donner une place, des voix qui seraient effectivement des voix de fiction. Et c'était très important de faire absolument disparaître tout ce qui pouvait être dans les autres livres, ce travail un peu sur l'hétérogénéité entre la part documentaire et la part de fiction. Là, je voulais vraiment les faire entrer en fiction, même s'il y a des choses qui m'ont été effectivement racontées. On sait pas ça. Je le dis parce qu'on est à la radio et qu'on raconte quelque chose sur le livre, mais on n'est pas censé le savoir.
Le lecteur ne s'en rend pas forcément compte.
Ben, je sais pas ça, mais il y a des lecteurs qui m'ont dit, oula, c'est plus vrai que nature. Enfin voilà, j'ai eu des réactions comme ça, mais c'est pas si net que ça qu'il y ait vraiment des gens derrière chacune de ces histoires.
Et c'est pas aussi net que dans les précédents romans que vous aviez publiés. Je me dis que la parole est la seule chose qui atténue nos malheurs, qui donne du sens à notre humanité. écrivez-vous. Donc c'est logique qu'on entende ces voix qui rêvent d'un autre monde d'ailleurs, d'un monde meilleur. Ce roman aurait pu aussi s'appeler Éloge de la parole.
Oui. C'est ça, c'est un éloge de la parole, ce livre. C'est-à-dire que c'est aussi des personnages qui finissent par être actifs parce qu'ils sont capables de parler, et pas parler, enfin pas simplement parler, mais parler de leur intimité, de leur propre histoire. Et parler, ça veut dire non seulement parler, mais ça veut dire écouter aussi, puisque en fait le principe du livre, c'est aussi que il parle c'est du style direct beaucoup, et donc ils s'interrompent, ils se reprennent. Donc j'ai aussi beaucoup travaillé sur le dialogue, ce que j'avais pas fait avant, et écouter quelqu'un, c'est aussi important que de parler.
Vous savez que c'est un enfant recueilli temporairement.
Il connaît sa maman, alors?
À peine. Elle lui a pas écrit depuis un an. Mais elle peut le reprendre quand elle veut.
Vous m'enlèverez pas de la tête que ce ne sont pas des enfants comme les autres. D'abord, on sait pas d'où ils viennent.
Nom Fournier, prénom François. Né le 12 décembre 1957, admis le 1er juillet 1961. Catégorie RT. Numéro du dossier 7697. Culte catholique baptisé.
Moi, j'attendrai pas ma carte d'identité pour savoir d'où je suis né. Moi, je fais mon enquête moi-même.
François, numéro 7697, ne veut pas se résigner.
Bande-annonce de L'enfance nue, le premier film de Maurice Pialat en 1968, que vous citez dans votre roman Olivia Rosenthal. C'est l'histoire d'un gamin de l'assistance publique, comme on disait à l'époque. Et d'ailleurs, vous ne cessez d'irriguer votre roman de références cinématographiques.
Oui, et puis alors ça m'amusait d'une part parce que ça, c'était aussi une manière de me relier à mes précédents livres où il y a beaucoup de d'allusions, de références au cinéma. Et puis ça m'amusait parce que là ces personnages sont dans un monde qui est, il y a peut-être une légère anticipation au sens où on ne sait pas si ça se passe aujourd'hui ou si ça se passe dans 10 ou 20 ans. Même si moi je pense que ça se passe aujourd'hui, les lecteurs ont tendance à me dire que c'est légèrement de l'anticipation. Or, le cinéma, donc dans ce monde-là, devient un art déjà du passé. Oui. Voilà. Et je pense que c'est déjà le cas. Hein. C'est-à-dire que ça me plaisait aussi que ces personnages parlent de films que peut-être les générations d'aujourd'hui ne regardent plus, des films en noir et blanc. Enfin, il y a toute une comme ça une culture qui est en cours de disparition. Et j'aimais bien qu'elle affleure comme ça de manière un peu étrange dans le livre.
Oui, c'est Lily, la narratrice, qui parle beaucoup de cinéma plus que les autres, même si Fox, de temps en temps, peut pleurer devant Les Demoiselles de Rochefort ou Les Parapluies de Cherbourg, plutôt, qui est aussi un film de Jacques Demy qui vous fait pleurer. Est-ce que ces personnages sont aussi des personnages de cinéma?
Ben, je pense que oui. Moi, je trouve que ce livre, même s'il parle énormément, pour moi, c'est aussi, c'est beaucoup des images, parce que ça se passe que la nuit, parce que ces personnages sont assez indistincts, il faut les inventer, parce qu'il y a beaucoup de lumière, il y a tout un rapport comme ça à la ville, aux phares, aux lumières, j'imagine des images. Après, je suis pas cinéaste, donc je vais pas faire ce film moi-même, mais.
Mais on imagine en effet la ville qui est actuelle ou d'anticipation, on ne sait pas exactement, c'est ce que vous disiez, mais c'est aussi le sentiment que j'ai eu en tant que lecteur, une ville où finalement tous les espaces communs sont supprimés au fur et à mesure et qui est en train de se déshumaniser.
C'est ça, et qui est en train d'abord, qui est une ville très verticale, dans laquelle il y a de moins en moins, comme vous dites, d'espaces communs, mais aussi d'espaces libres, on pourrait dire, je ne sais pas si on peut dire communs ou libres, ou délaissés. Et donc le travail de ce groupe, c'est de créer de l'espace libre à l'intérieur de la ville. Et au fond, la parole, c'est le premier espace libre qu'ils vont s'octroyer. C'est un moment comme ça, suspendu. Et peut-être que dans nos vies, on n'a plus tellement l'occasion de passer des nuits entières à se parler. Donc c'est ça leur première résistance.
Et ce groupe des bâtards, donc ainsi nommé, peut faire penser aux zadistes, éventuellement aux gilets jaunes sur certains ronds-points, ou aux militants d'Extinction Rébellion, qui depuis un an sont sur la place publique.
Contre l'extinction !
On a un mouvement d'action civile non violente, qui a pour but de dénoncer l'inaction des pouvoirs publics, des puissants.
C'est la frustration aussi, parce que c'est le plus grand défi dans l'histoire de l'humanité. Et on ne fait pas grand-chose.
En fait, c'est pas de violence physique, verbale ou psychologique envers les personnes, parce qu'on s'adresse à des adversaires, pas à des ennemis.
Rébellion ! Extinction Rébellion.
Olivier Rosenthal, vous adhérez à ce type de mouvement
En tout cas, je trouve que ce qui est intéressant dans ces mouvements, c'est justement que d'abord on entend des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et même ça arrive de les entendre sur les médias, donc c'est quand même assez exceptionnel d'entendre des choses sur les expériences de vie, des choses sur la vie quotidienne, des choses que c'est vrai que en fait qu'on n'entend pas. Et donc, de ce point de vue-là, c'est des mouvements qui sont importants. Et je crois, même si j'ai commencé ce livre à bien avant qu'il y ait le mouvement des Gilets jaunes, je pense que voilà, j'ai été aussi. Il y a une porosité à l'endroit d'une certaine nouvelle manière de faire de la politique. Je pense qu'on est dans un climat un peu révolutionnaire, l'air de rien. Tous les jours, on entend des actions comme ça qui sont proposées ici et là et qui sont des actions de résistance. Donc je trouve que là, on vit un moment d'inventivité politique qui est assez exceptionnel.
En tout cas, vos militants proposent, je trouve, des actions formidables.
J'aimerais bien qu'ils les fassent vraiment.
Oui, repeindre les bandes d'arrêt en rose, par exemple.
Ben oui, c'est bien ça. Hein.
Substituer les modes d'emploi des appareils électroménagers pour mettre à la place des extraits du Kama Sutra. Ouais. Ah, moi, je vais acheter une théière ou une cafetière tout de suite. Ou faire exploser des boules puantes devant les banques.
Ouais. Non, mais j'en ai inventé plein. Certaines qui sont des actions, je dirais, un peu poétiques. Et d'autres qui sont des actions un peu plus violentes. Et justement, je pense que ce sont des manières, des formes d'effraction, en fait, à l'intérieur de la ville, des manières de rendre visibles aussi des choses qui le sont de moins en moins. Donc, de ce point de vue-là, les actions des groupes que vous citiez vont dans le même sens, au fond. C'est des tentatives d'effraction.
Et vous proposez aussi des slogans. Donc c'est un petit manuel pour faire la révolution, cet éloge des bâtards. Apache un jour, apache toujours.
Oui.
Et je crois celui que je préfère, c'est mange ta peur.
Ah oui, c'est pas mal celui-là.
C'est pas mal quand même, parce que la peur est quotidienne, la peur est à tous les coins de rue, la peur est dans tous les esprits aujourd'hui.
Aujourd'hui,
la peur est organisée.
C'est ça, et aussi, ce que raconte le livre, c'est que cette peur, elle est aussi liée au fait que c'est une ville qui est quasiment sous vidéosurveillance, donc ça veut dire que non seulement on est tout le temps sous le regard de quelqu'un, donc c'est aussi ça change complètement la relation que chacun a avec sa propre vie, sa manière d'habiter le monde, etc. Et donc c'est aussi contre ça qu'ils essayent de s'élever.
Et dans ces écrans de contrôle, les bâtards proposent de diffuser plutôt des documentaires animaliers. Je trouve que c'est une assez belle idée. Est-ce que la littérature peut faire la révolution, Olivier Rosenthal?
Non, je crois pas. Hein. Mais en tout cas, elle apporte sa petite pierre à toutes ces pensées politiques, ces actions qui sont proposées ici et là. C'est comme un tissage de plein de choses les unes avec les autres. Donc je participe à ce tissage, peut-être.
Plus jamais seul, c'est aussi un des slogans proposés. C'est un peu le thème du livre, finalement. Mm. Parce que c'est un éloge du collectif et de ce que vous appelez très bellement les solitudes partagées.
Oui, ça a failli être le titre du livre, d'ailleurs. Mais je crois que ce titre était déjà pris, donc et on s'est rabattu sur l'éloge des bâtards, mais c'est vrai que oui, c'est aussi un éloge des collectifs, mais j'ai envie de dire des petits collectifs, parce qu'ils sont 9, c'est déjà beaucoup, et aussi des petites actions, parce que leurs actions sont très localisées. Ça aussi, ça c'est en lien avec les actions, par exemple, des Gilets jaunes. C'est-à-dire, c'est à un endroit précis qu'on va agir, parce qu'on peut pas être partout à la fois. Et donc ça, c'est important aussi, le rapport au local.
Et le temps de l'idéologie est terminé.
En tout cas, on voit bien qu'il a fait long feu, quoi.
Et vous appelez plutôt un temps de la consolation.
Ça, c'est la littérature qui nous console. Enfin, moi, c'est comme ça que je la pratique. Après, je pense qu'on peut faire un peu plus que de la consolation, mais on peut faire entre consolation et révolution. Finalement, ça rime, donc il y a peut-être des choses à inventer là les deux.
Et donc, vous êtes entre les deux.
Entre les deux, oui.
Merci beaucoup, Olivier Rosenthal. Éloge des bâtards est édité chez Vertical. Toutes les infos sur la page de l'émission RFI.fr et sur la page Facebook de Vive Voix, Pascal Paradou, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. On se retrouve demain.